Let's hear now an example of correct microphone latency.
Slippery. When.
Wet.
Yep.
Never.
Slippery.
When.
Wet.
Slippery.
When.
And I know you had something to do with what happened to my brother.
Et voilà, bah dis donc, ça s'arrête net. Bonsoir et bienvenue pour ce numéro de février de Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8. Alors ce mois-ci, on vous emmène dans la dimension linéaire du rock indé. Jeu de mots bien pourri. Avec une émission consacrée au groupe Yola Tengo, dont on a écouté en ouverture le titre House Fall Down. C'est sur l'album New Wave Hot Dogs qui est sorti chez Coyote Records en 1987. Alors avant de parler musique quand même, petite dédicace ce soir parce que Delphine n'est pas avec nous derrière les micros ce soir et non.
Mais c'est pas parce qu'elle est malade,
c'est parce que son petit Alyosha est né la semaine dernière et du coup elle s'occupe de lui. Voilà, donc.
Bonjour Alyosha, welcome world.
Spéciale dédicace aux deux qui nous écoutent peut-être de l'autre côté du poste. Voilà.
On en revient quand même à Yola Tengo. Alors d'abord, malgré leur nom hispanisant, ça n'a rien à voir avec les Gypsy Kings et pourtant ils sont presque aussi vieux.
Oui.
Mais eux, ils occupent la scène rock alternative de la côte est états-unienne.
C'est mieux.
Et surtout, ils sont toujours vraiment actifs après 33 ans de carrière, ce qui est quand même pas mal.
C'est beau.
Alors le groupe, il a vu le jour en 1984 à Hoboken dans le New Jersey.
Au joli port de pêche.
Je connais pas, je suis jamais allée.
C'est sinistre.
C'est pour ça que, comme ils s'embêtaient, Ira Kaplan avec sa guitare et Georgia Hubley avec sa batterie, ben ils ont décidé de faire un duo. Et en plus, tous les deux, ils assuraient les parties de chant et de piano. Et
ouais,
il se trouve que ce duo à la scène, voici, Oops Gala, est aussi un couple à la ville.
Non.
Alors Yola Tengo, ça a démarré comme une petite affaire familiale qui a fait défiler pas moins de 13 bassistes quand même.
Ils en ont usé,
dis donc. Ouais. Jusqu'à l'arrivée stabilisante de James McNew en 1991. Ouf. Et alors, avec ce line-up, Yola Tengo a exploré en l'espace de 30 ans à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme musique, allant du rock noisy à la pop folk en passant par la country et le shoegazing.
Ding ding.
on a décidé que maintenant on allait faire un bip quand on a déjà quand on a déjà défini le mot.
Voilà.
Et donc tout ça pour vous dire que Yola Tengo, bah ils sont pas sectaires.
Non non, ils sont assez largement ouverts d'esprit. Et alors en matière d'influence, hein, pour faire simple, on peut dire carrément que Yola Tengo est aux années 90 que le Velvet Underground est aux années 60,
ah, avec un peu moins connu,
un axe de avec moins d'expo médiatique pour Yola Tengo, on est d'accord, mais avec un axe de symétrie qui se trouve quelque part au niveau du post-punk, hein, dans les années 80.
C'est une émission hyper scientifique.
Voilà, donc on parle ici d'un mélange de songwriting pop tradi, un peu, avec des expérimentations soniques. Tout ça largement influencé par la musique de groupes un peu charnières comme Television ou Mission of Burma, rien à voir avec Nestor, ou encore The Soft Boys. Et c'est d'ailleurs en mentionnant ces deux derniers noms sur leur petite annonce que Yola Tengo recrute ses nombreux bassistes. Et oui, du coup, on va écouter ça sans plus tarder. Un premier titre de Mission of Burma qui s'appelle Tram 2, c'est sorti en 82 sur l'album Versus chez Ace of Hearts. Et ensuite, on mettra dans le sandwich une petite tranche de Yola Tengo avec la deuxième version de Big Day Coming qui figure sur l'album Painful qui est sorti chez Matador en 93. Et pour finir le sandwich, une couche de Soft Boys avec Do the Chisel, un extrait de l'album A Can of Bees sorti en 79 chez Two Crabs Universal.
On sent que c'est bientôt l'heure du dîner quand même. Hein.
Le bon clic, c'est parti.
We'll be right back.
Alors voilà, on vient d'écouter Do the Chisel par The Soft Boys, juste avant Big Day Coming, second version par Yola Tango, qui est l'objet du Slippery When Wet de ce soir, et encore avant Tram 2 par Mission of Burma. Alors on parlait il y a un instant de l'influence de Mission of Burma sur la musique de Yola Tango. Ça a été particulièrement concret au début de notre combo du New Jersey, puisque pour leur premier album, la production mais aussi les lignes de basse étaient assurées par Clint Conley, qui est, ben oui, le bassiste fraîchement retraité, enfin qui était le bassiste fraîchement retraité de Mission of Burma.
Parce que depuis, ils se sont reformés, tout ça, enfin c'est compliqué.
Voilà, ça va vite. Hein. Pour terminer avec les influences, on a fait tout à l'heure un parallèle entre Yola Tango et le Velvet Underground. Et ben, figurez-vous que c'est au premier Yola Tango, donc, qu'a été confié le rôle des seconds, le Velvet Underground.
Oui, j'avais compris.
Ah, ben, toi tu suis. Tout ça dans le film I Shot Andy Warhol, qui est sorti en 96 et dont la musique a été composée par John Cale. Voilà, c'est tout pour le trafic d'influence.
Oui, c'est pas mal.
Sinon, une particularité du Yola Tango, c'est que c'est un groupe qui dispose d'un répertoire quasi encyclopédique de reprises qu'ils jouent en live ou dont ils font carrément des albums, comme on va le voir. Et en la matière, ils n'ont peur de rien puisque leurs covers vont de Eurythmics à Cure, en passant par Petula Clark.
Ah, Petula Clark.
T'as un revolver dans la poche ou t'es juste content de me voir? Avec même des incursions vers des trucs jazzy, comme en témoigne la petite récréation.
Ah oui, écoutez ça, ça c'est l'original.
They're talking about, yeah, nuclear war, yeah, well, they're talking about.
Yeah. Catherine, tu connais ça?
Bah ouais, c'est récré, c'est Nuclear War.
Oui, alors effectivement, le titre s'appelle Nuclear War et c'est Sun Ra, c'est sorti en 82, donc Sun Ra, le jazz de l'espace, tout ça. Eh bien, figurez-vous que Yola Tango a osé en faire une reprise et ça ressemble à ça.
Ah ouais.
Ça groove à mort, on dirait de l'afrobeat.
Nuclear War.
Yeah.
Nuclear War.
Yeah,
talking about,
yeah,
nuclear war,
yeah,
nuclear war,
yeah,
nuclear war.
Voilà, tout ça pour illustrer l'ouverture d'esprit de Yola Tango. Et puis quand même, c'est pas parce qu'ils font du rock qu'ils sont manchots avec leurs instruments, parce que mine de rien, la Georgia Hubley à la batterie, elle groove à mort, quoi.
Ouais.
Faut le dire.
Elle est bonne.
Maintenant
bonne
qu'on
Georgia.
A... Elle est bonne, Georgia. Maintenant qu'on a illustré le talent multistylistique de Yola Tango, on va revenir aux choses sérieuses, hein, c'est-à-dire à la guitare, en allant écouter un peu ce qui se fait chez les contemporains du groupe de ce soir. Hein. Alors parmi les groupes auxquels on pense lorsqu'on écoute Yola Tango, il y a évidemment Pavement, à qui on avait consacré une émission dans le temps. Donc ça c'est la version slacker côte ouest de nos amis de Boken. Et puis du côté de la pédale de disto, on pense évidemment tout de suite à Sonic Youth. Ça vient à l'esprit naturellement. Et ce sont ces derniers qu'on va écouter tout de suite avec le titre Schizophrénie. Cet extrait de l'album Sister s'est sorti chez SST en 1987, ça ne nous rajeunit pas. Et ce sera suivi de Sugar Cube, un morceau non pas de sucre mais de Yola Tango, extrait de l'album I Can Hear the Heart Beating as One, sorti chez Matador en 97.
Yo!
Thank you.
on dirait un bruit de manège sous l'eau. Voilà, c'était Yola Tengo avec Sugar Cube, et juste avant ça, c'était Sonic Youth avec Schizophrénia. Vous écoutez 90.8, c'est Campus Grenoble, et c'est surtout Slippery When Wet consacré à Yola Tengo ce soir. Et là maintenant, tout de suite, attention, c'est l'heure de la chronique de Catherine.
Bonjour, c'est donc l'heure de Les livres que j'ai pas fini de lire et le roman rock du mois que j'ai lu jusqu'au bout et même après. Il est à nouveau lyonnais. C'est pas un hasard total puisque j'ai rencontré Pauline Picot, sa charmante autrice ou auteuse ou auteure, au salon du livre de Chazet d'Azergues en novembre. Alors, Pauline Picot, elle est hantesse de lettres, elle a déjà publié des pièces de théâtre chez la prestigieuse maison d'édition Quartet, et quand elle était encore plus jeune que maintenant, figurez-vous qu'elle a découvert Joy Division, ce qui était méritoire pour quelqu'un de sa génération. D'ailleurs, elle m'a assuré que personne ne les connaissait dans son entourage, et d'ailleurs personne dans son entourage n'a partagé son intérêt. Quand je dis qu'elle a découvert Joy Division, le terme est léger, il faudrait plutôt dire qu'elle est tombée dans Joy Division, et surtout dans l'idolâtrie de son chanteur, l'épileptique et ténébreux Ian Curtis. Comme quoi faire plein d'études n'empêche pas de tomber sous la coupe des bad boys, même quand ils sont morts. Mais pour notre plus grand plaisir, au lieu de profiter de cette passion pour boire, fumer, se droguer, dire des gros mots, se teindre en blonde et ramper partout comme Courtney Love, Pauline Picot s'est défoulée dans l'écriture. Et quelques années plus tard, elle est retombée sur les fragments qu'elle avait commis à l'époque. Elle les a trouvés pas si inintéressants avec leur petit côté fan en délire, et du coup elle les a retravaillés et elle a publié le résultat toujours chez Quartet, avec avant une préface d'Eric Fictoussi, s'il vous plaît. Eric Fictoussi, ancien guitariste de groupe lyonnais, mais surtout chroniqueur sur France Culture. Et après le texte sur Ian Curtis, donc, y a une superbe pièce sur le processus de création que j'ai lu aussi et qui est hyper bien. C'est pour ça que j'ai lu le roman Ian jusqu'au bout et même après. Mais c'est pas le propos ici. Le livre s'appelle tout bêtement Ian, I-A-N, comme Ian Curtis. Le recul de la réécriture et de l'analyse, à la fois sur elle et l'objet de sa passion, lui a permis de dresser de manière indirecte un portrait extrêmement convaincant de Ian Curtis, légende de la New Wave, suicidé en 1980 à 23 ans. Mais surtout, il y a dans ce livre une écriture superbe et torturée, très rock et flamboyante, qui par moments vire à l'incantation hallucinatoire. Le style est peut-être un peu trop dense et impliquant pour en lire facilement 500 pages d'un coup, faut être honnête, mais là, sur 50 pages, c'est juste jouissif et percutant. Bref, on l'aura deviné, j'ai beaucoup aimé. Alors, deux petits extraits, tout petits, trop petits. Page 21. Si on l'écoute aujourd'hui, on se dit « Mais mon Dieu, il ne savait absolument pas chanter. » Alors je vous dis, ça ne peut pas vous plaire. Ça joue, ça déborde, c'est pas toujours très juste. Ce n'est jamais très juste, mais ça vient d'un moment où le cri avait remplacé le chant. Il aurait fallu réapprendre à chanter, et c'était trop de travail. Enfin, je vous dis, c'est surtout une tension. Trois tensions en fait, plus sa tension à lui, une tension diffuse. Un velours diffus de somnambule qui glisse sur tout et dans tout, comme s'il allait tomber des immeubles. Les premières fois qu'il chante, on le pousse presque sur la scène pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ce qui compte, c'est d'oser et pas d'écrire une ode à quiconque. Alors, vers 3-4 heures du matin, toutes les nuits, dans des bars, il ouvre la tombe dans laquelle il vit depuis qu'il est né et sur laquelle est écrit « Mythe ». Et il en sort et il monte sur scène et il exhume à nouveau quelque chose de lui et il charrie sa terre dans une transe molle, suant d'une noire et presque inerte volupté, se balançant chaque soir au-dessus de sa fosse et menaçant d'y retomber les yeux clos. Dès le début, ce n'est pas la justesse qui compte, mais l'effort immense de sortir encore et encore de sa boîte ce corps pourrissant qui titube et gesticule pour se justifier d'une chose inintelligible. Deuxième extrait, c'est le chapitre 4.
C'est gothique.
Ah, c'est gothique, oui.
Pas mal.
Mais là, dans le genre style, elle a pas mal de palettes à son arc, comme on ne dit pas. Et comme on va voir, elle peut aussi donner dans le genre théâtral. Alors, le chapitre 4, ça s'appelle « Après la foudre ». Ses yeux sont pleins d'eau morte. Il revient très lentement dans son corps glacé. Bernard S. Ça va ? Allongé, les cheveux crissants de gravier, le regard au niveau des pneus, des phares de voitures assourdis. Peter H. Ça va, mon vieux ? Recouvert de manteaux, recouvert des visages qui disproportionnés au-dessus de lui, le guette dans un flou angoissé, tendu. Stephen M. Il n'a pas l'air bien, il a même l'air franchement désarticulé. Encore incrédule, encore presque amusé. Peter H. « Oh, mon pote !» Ses yeux sont de lourds flotteurs qui peinent à revenir à l'avant de son regard. Bernard S. « Nom de Dieu, les gars, vous croyez que... » Son corps, une charpie de poupée arrachée, jetée là, hâtivement enroulée dans un peu de compassion. Stephen M. « Chut, chut, faut pas trop faire de bruit autour de lui. Hé, tu m'entends ? Combien de doigts ? Combien ?» Il ne peut tenir sa tête qui retombe sur le côté, hors de portée des visages. Le champ de vision figé. Peter H. Il est en plein délire. Délire, mon vieux délire. Il fait un peu froid sur le bas-côté, mais te gêne pas pour nous. Allongé sur un noir rivage, une plage délavée, nocturne. Quelque chose l'a roulé, déchiqueté, rassemblé. Échoué ici dans une grande paix, le champ de vision figé. Bernard S. Qu'est-ce qu'il regarde ? Il fixe un truc. Qu'est-ce qu'il a eu ? Dans ce cadre inexplicable, il y a l'alliance à sa main immobile, l'arbre d'en face et la barrière de l'autoroute. Sur sa joue, il y a la bave en long filet coulant jusque dans le menton, sur le gravier. Stephen M. Je prends ses jambes, tu prends sa tête. Paix de ce champ de vision figé, nocturne. C'était Yann de Pauline Picot.
Eh ben merci Pauline Picot, ça va pas être facile d'enchaîner avec ça. Bon alors, au retour à Yola Tango et à la musique à laquelle on a décidé de consacrer l'émission ce soir. Alors jusqu'à présent, on a illustré le côté rock de ce groupe. On va maintenant écouter ce qu'ils savent faire dans un registre un peu plus folk, avec un titre qui évoque la musique de Mazzy Star par exemple, ou des Canadiens de Cowboy Junkies. Ça s'appelle Tears Are In Your Eyes, et c'est sur l'album And Then Nothing Turned Itself Inside Out. C'est sorti chez Matador en 2000. Et on va rester ensuite dans l'ambiance avec un groupe contemporain de Yola Tango qui s'appelle Low, avec le titre Fear. Eux, ils font dans la brièveté, dans la brévitude même. Extrait de I Could Live in Hope, paru chez Vernon Yard en 94.
Summer's here, and the time.
Alors, on vient d'entendre Fear par Yolo et juste avant Tears Are In Your Eyes par Yola Tengo. La discographie de Yola Tengo, y a quand même 14 albums.
Il y a du monde.
Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'au début, ils ont publié uniquement chez Coyote Records, donc en 86 Ride the Tiger, en 87 New Wave Hot Dogs et en 89 Président Yola Tengo. Ensuite, ils ont un petit peu batifolé du côté de Barnum Records pour sortir Fake Book en 90, 14 ans avant Facebook quand même, c'était que des reprises. Ensuite chez Alias Records, May I Sing With Me en 92. Et ensuite tout chez Matador jusqu'à la fin des temps, jusqu'en 2040. Donc en 93, Painful. En 95, Electropura. En 97, I Can Hear the Heart Beating as One. En 2000, And Then Nothing Turned Itself Inside Out. En 2003, Summer Sun. En 2006, I'm Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass. J'adore
ce
titre. En 2009, Popular Songs. En 2013, Fade. Et enfin en 2015, Stuff Like That There. Là, ici.
Et
tous ces albums, ça a laissé une trace indéniable chez des artistes plus jeunes, comme on va l'écouter tout de suite avec ces deux titres. Le premier, ça sera Yola Tengo avec Tiny Birds, extrait de l'album Summer Sun sorti en 2003 chez Matador. Et ensuite, ça sera Kurt Vile, V-I-L-E, avec Take My Advice, un titre qui figure sur l'album Constant Hitmaker sorti chez Gulcher en 2008.
Voilà, on change encore d'ambiance, vous allez voir.
Thank you.
Détendez-vous, fermez les yeux, c'était Kurt Weill avec Take My Advice et juste avant ça c'était Yola Tengo avec Tiny Birds, on a fait dans les petits oiseaux pour se relaxer. C'est toujours Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8 et notre émission consacrée à Yola Tengo touche à sa fin, mais quand même on ne peut pas vous laisser partir sans vous expliquer d'où sort le nom si étrange de ce groupe. Alors ça vient d'abord de la volonté d'Ira Kaplan et Georgia Hubley de trouver un nom qui ne soit pas à consonance anglo-saxonne. Bon, une fois qu'on a dit ça,
il
faut aller chercher quand même. Et pour ça, eux, ils sont allés pêcher une anecdote de baseball, et oui. Alors, figurez-vous que Yola Tengo, c'est la phrase d'espagnol qu'avait apprise pendant la saison 1962 un joueur de champ de l'équipe des Mets de New York. Tout ça pour prévenir son coéquipier vénézuélien et non anglophone qui sinon lui rentrait dans l'art à chaque fois en essayant d'attraper la balle. Et la communication en espagnol a tellement bien fonctionné qu'à la réception suivante, le même joueur de champ s'est fait péter les dents par un autre coéquipier qui lui ne parlait pas espagnol et qui l'a percuté sans comprendre que Yola Tengo, ça voulait dire laisse geler. Voilà. Un triste exemple d'incompréhension sportive qui donne son nom à un bel exemple d'éclectisme musical. C'est joli, non ?
Ah oui.
Avec tout ça, on se quitte avec un titre de nos Espagnols du New Jersey qui s'appelle The Race Is On Again. C'est sorti chez Matador en 2006 sur l'album I'm Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass.
Décidément, j'adore ce titre.
Et pour conclure, on écoutera un autre groupe dont la musique sent bon l'influence de Yola Tengo. Il s'agit de Deer Hunter avec le titre Agoraphobia sorti chez Cranky en 2008 sur l'album Microcastle. Avec tout ça, on vous dit au mois prochain. Amusez-vous bien, d'ici là, soyez sages. Bye bye.
On va essayer.
Come for me, and I